Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Paris le 15 juillet 1789, au lendemain de l'insurrection historique. Une douzaine de carrosses en provenance de Versailles sont en train de traverser la place Louis XV, qu'on n'appelle pas encore la place de la Concorde. Ils se dirigent vers les Tuileries, puis l'Hôtel de Ville. Et il y a dans ces carrosses environ 80 députés, escortés par un peloton de gardes à cheval, suivis par toute une foule de citoyens, parce que les voitures avancent au pas, et il est assez facile de les suivre, et on crie « Vive la nation !» et « Vive les députés !» Oh, certains se penchent même pour saluer la foule « Vive le roi !» Et parmi ces députés, un homme de 52 ans, astronome, académicien, franc-maçon, il s'appelle Jean-Sylvain Bailly. Il fait partie de ceux qui appellent de leur vœu une monarchie constitutionnelle. « Les rois, aussi bons soient-ils, ne peuvent rien faire sans le peuple », a-t-il écrit. Bailly a d'abord été député du tiers-état, dont il a été désigné doyen, et c'est en tant que doyen qu'au moment où les députés du tiers se sont constitués en Assemblée nationale, avec quelques transfuges, me direz-vous, et il est devenu le tout premier président de la toute première Assemblée nationale. Dans la salle du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, c'est lui qui a lu le fameux serment du Jeu de Paume, rédigé par le député Target. « Nous jurons de ne jamais nous séparer de l'Assemblée nationale et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. » Est-ce qu'on peut appeler ça un coup d'État ? Après la prise de la Bastille, le roi a choisi de temporiser. Louis XVI s'est présenté devant cette Assemblée nationale et il a déclaré aux députés « C'est moi qui ne suis qu'un avec la nation. C'est moi qui me fie à vous. » Il a essayé en quelque sorte de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, mais il n'empêche que, ce faisant, il a reconnu la légitimité de l'Assemblée nationale et le roi, à mi-mot, a accepté une forme de monarchie constitutionnelle, en tout cas en puissance. L'Assemblée nationale a voulu informer les Parisiens de ce qu'elle considère comme une très grande nouvelle, d'où ce cortège de 80 députés envoyés à l'Hôtel de Ville. La voilà, la délégation qui arrive à l'Hôtel de Ville où l'attend une soixantaine de grands électeurs parisiens. La foule s'engouffre avec les députés dans les salons. La veille, le 14 juillet, le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire celui qui faisait office de maire, si vous voulez, qui s'appelle Flessel, a été tué au moment de la prise de la Bastille. Vous savez, tué de façon très violente et dans des circonstances confuses. Il était soupçonné d'avoir caché de la poudre à canon. C'est très important, ce prévôt des marchands. C'est lui qui s'occupe à Paris de l'approvisionnement du commerce, des taxes, de la circulation, bref, de toute la police municipale. Et pour garantir le calme, le chef de la garde nationale, qui n'est autre que le marquis de Lafayette, bien entendu, fait partie de la délégation. Évidemment que quand on voit Lafayette à côté de Bailly, il a beaucoup plus de prestance, d'autorité, de panache. Le roi a été trompé, mais il ne l'est plus, dit-il. En venant porter de sa part des paroles de paix, j'espère aussi, messieurs, lui rapporter la paix dont son cœur a besoin. Et plusieurs députés s'expriment dans le même esprit. L'idée, c'est de faire un peu retomber la pression, comme diraient nos analystes politiques d'aujourd'hui, un peu de réconciliation dans tout ça, ça fera pas de mal. Quelqu'un propose de désigner un nouveau prévôt des marchands. Non, non, pas un prévôt, dit quelqu'un. Un maire de Paris. Et là, tout le monde se tourne vers Bailly, qui donc est président de l'Assemblée nationale jusqu'au 4 juillet. Voici ce que, dans son ouvrage qui vient de paraître chez Tante et Plus Éditions, c'est André Paquier qui a écrit Bailly, premier maire de Paris. Voici ce que nous dit André Paquier. La couronne, qui venait de récompenser le comte de Lally-Tollendal pour ses propos élogieux à l'égard du roi, se trouve tout à coup sur la tête de l'astronome qui, en signe d'acceptation, s'incline sur le bureau, les yeux emplis de larmes. Ému au point de ne pouvoir tenir le moindre propos cohérent, il finit par remercier, mais en ajoutant qu'il ne se sent pas digne d'un si grand honneur, ni capable de porter un tel fardeau. Dans un véritable brouillard, Jean-Sylvain Bailly ne sait plus où il en est, ni ce qu'il doit faire, et surtout, il ignore tout de ce qui l'attend. Oh, la foule est en train de l'acclamer en attendant. « Vive le maire de Paris !» Pour filer la métaphore de l'analyse politique, je dirais qu'il est en plein état de grâce, Bailly.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est un jacobin modéré, hein. Son premier travail va être d'apaiser les esprits, vous l'aurez compris. Il reçoit les Parisiens inquiets, il essaie de rassurer les uns et les autres sur les intentions du roi. « Il faut lui faire confiance », répète-t-il en parlant de Louis XVI. Beaucoup d'électeurs demandent s'il ne serait pas possible de faire venir le roi à Paris. Ce serait un gage de la bonne volonté royale. Et Bailly invite Louis XVI, qui accepte. Rendez-vous est pris, si je puis dire, pour le 17 juillet, donc le surlendemain. Événement absolument considérable, vous imaginez. Le roi se déplace à Paris juste après la prise de la Bastille. Il arrive en fin de matinée, Louis XVI, avec plusieurs membres de la cour, toute une escorte de la garde nationale de Versailles. Il y a une centaine de députés qui l'entourent et la foule crie toujours « Vive le roi et vive la nation !» Très important, c'est ça l'idée qui est dans l'air du temps, bien sûr. C'est Bailly qui donc a l'honneur redoutable de recevoir le roi à l'hôtel de ville. « C'est le plus beau jour de la monarchie, dit-il. C'est l'époque d'une alliance éternelle entre la monarchie et le peuple. Ce traité est unique dans l'histoire. Il immortalise votre majesté. » On connaît la célèbre séquence qui suit. Hein, le maire offre au roi une cocarde aux couleurs de la ville, bleu et rouge. Et Louis XVI va fixer la cocarde à son chapeau. On attend de lui un discours. Oh, rien n'a été prévu. On a envie de dire comme tout le monde, comme toujours, pardon. Avec Louis XVI, c'est comme ça. Il va quand même bredouiller le roi. « Vous pourrez toujours compter sur mon amour. » C'est peut-être pas exactement ce qu'il fallait dire. Enfin bon. Toujours est-il qu'il est là, à la fenêtre, le roi Louis XVI, qu'on applaudit vivement. Il remonte dans son carrosse et repart pour Versailles sous les acclamations. Et Bailly a réussi, pense-t-il, ce qu'il considère comme la nécessaire opération d'apaisement que tout le monde lui réclamait. Le maire va quand même devoir faire face à une autre urgence qui est encore bien plus essentielle, c'est d'approvisionner Paris en blé, en farine, en pain, si vous voulez. Ça, c'est la condition de la paix. Et Bailly va prendre beaucoup de temps, il va consacrer toute son énergie à découvrir où sont les problèmes, où sont les goulets d'étranglement, pourquoi certains font-ils des stocks, pourquoi y a-t-il des pillages. Le 24 juillet à Saint-Denis, le 4 août à Louviers, on a pillé des greniers. Bailly fait escorter les convois, il réquisitionne, il achète à l'étranger. L'approvisionnement s'améliore, c'est vrai, mais pas assez vite. Et le 5 octobre 1789, vous connaissez là aussi la date, j'imagine, première des deux journées d'octobre, comme on les appelle dans l'histoire de la Révolution, ce sont ces 4000 femmes qui, après être allées voir Lafayette à l'hôtel de ville, vont marcher sur Versailles pour réclamer du pain à l'Assemblée et pas au roi. Le roi d'ailleurs est en train de chasser au moment où toutes ces femmes arrivent à Paris sous une pluie battante. « Hélas, si j'avais du pain, je n'attendrais pas qu'elles vinssent pour leur en donner, » dit le roi. Et faute de pain, la foule va s'entasser. Vous savez tout ce qui se passe, l'arrivée de Lafayette avec ses hommes, la tergiversation et puis l'invasion littéralement du château par la foule au petit matin du 6 octobre. Et on réclame au roi d'aller à Paris, à Paris, à Paris. « Mes amis, j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants », dit le roi sur les coups d'une heure de l'après-midi. Et le voilà qui repart effectivement vers Paris, c'en est fini de la monarchie versaillaise. Et le lendemain, Bailly l'accueille de nouveau en grande pompe. « Le roi sera puissant par son peuple et le peuple sera heureux par son roi », dit-il. Ça, ce sont ce que vous me permettrez d'appeler pour le moment de belles paroles. Thank you. Le menuetto de la symphonie concertante en ré majeur de Gluck, l'ensemble Orfeo Baroque Orchestra était sous la direction de Madame Michigeg.
Vous écoutez Radio Classique.
Je vous propose d'avancer un peu dans cette période révolutionnaire en feuilletant un peu vite l'agenda. Le 4 août, vous savez ce qui s'est passé, abolition des privilèges, bien entendu. Autant dire que l'ancien régime, sur ses fondements même, a cessé de vivre en tant que tel. Le 14 juillet 90, pour l'anniversaire de la prise de la Bastille, Louis XVI prête serment à la nation. Hein, c'est évidemment la période extraordinaire de la fête de la Fédération, mais plus le temps passe et plus le roi se sent en quelque sorte coincé à Paris, prisonnier aux Tuileries. Le 18 avril 91, Louis XVI annonce au maire, annonce à Bailly qu'il a bien l'intention d'aller célébrer les fêtes de Pâques chez lui, enfin en tout cas chez la reine, à Saint-Cloud. Il estime que Paris n'est pas bon pour une santé qu'il juge par ailleurs défaillante et qu'il faut aller s'installer à Saint-Cloud. Et Bailly, comme Lafayette d'ailleurs, est favorable à cette installation du roi. Ils estiment qu'un roi qui se sent prisonnier donne mauvaise impression, notamment aux ambassadeurs étrangers. Bien sûr qu'il faudra une escorte, il faudra s'assurer de la sécurité du roi sur son parcours. Et le carrosse royal est prêt à quitter les Tuileries pour Saint-Cloud quand la nouvelle du départ s'étant répandue dans Paris, eh bien, les Parisiens s'y opposent. On soupçonne Louis de vouloir fuir, de s'en aller vers les Pays-Bas, où il pourrait rejoindre l'armée de l'empereur d'Autriche, du frère de son épouse, hein, de son beau-frère. Et pourquoi pas, de là-bas, restaurer un pouvoir monarchique pur et dur. La foule est donc déjà dans les rues qui bordent les Tuileries, elle arrive presque dans les cours, les grenadiers de la garde nationale vont fraterniser, vous le savez, saisir la bride des chevaux du convoi royal et la famille royale est obligée de céder. Il n'y aura pas de Pâques à Saint-Cloud, le roi et sa femme et sa famille regagnent les appartements des Tuileries. Bailly et Lafayette ont perdu la confiance des électeurs de Paris et des Jacobins, mais ça, ce n'est qu'un début. Parce qu'il va y avoir, évidemment, ce qui se passe dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. La fuite du roi qui est parti en direction de Montmédy. Bailly est informé de ce départ secret de Sa Majesté dans la nuit du 20 au 21. Il est informé le 21 à 7h du matin. On informe aussitôt l'Assemblée nationale, le Conseil général de Paris. Toute la ville est sous le choc. À 11h du soir, le carrosse royal va être intercepté chez l'épicier Sauce, vous savez, dans la petite ville de Varennes. Alors évidemment, il faut tenir compte des délais d'information. Hein. À l'époque, les informations n'arrivent pas en temps réel. Bref, on sait que le roi est déjà sur la route qui va le ramener à Paris et c'est une insulte générale pour la famille royale. Et pour Bailly, c'est la curée. Le maire est accusé de laxisme, voire de complicité. D'autant plus que le frère du roi, le comte de Provence, celui qui deviendra beaucoup plus tard le roi Louis XVIII, le comte de Provence, lui, a réussi son échappée et il a rejoint l'armée autrichienne. Bailly et Lafayette craignent l'anarchie. Ils se disent qu'une régence est en marche et ils choisissent l'offensive. Ils défendent le roi en évoquant un enlèvement. C'est pas du tout une fuite. Le roi n'était pas d'accord avec ce départ précipité et secret. Ils arrivent à imposer cette version qui tient pas debout, entre nous soit dit. L'Assemblée nationale va donc mettre le roi hors de cause parce que ça l'arrange. On rétablit Louis XVI dans ses fonctions, mais alors avec quel pouvoir? D'abord, le roi est obligé, enfin, il s'empresse de signer la Constitution. L'Assemblée vote une amnistie générale qui libère à la fois les républicains et un certain nombre de monarchistes qui doublaient Louis XVI sur sa droite et malgré tout, cette fuite a fait grossir les rangs des républicains. Elle a rendu le roi très impopulaire. Elle a renforcé la véhémence d'un certain nombre de clubs, et notamment le club des cordeliers qui vont rédiger un texte pour demander que l'Assemblée se dessaisisse au profit d'un directoire et que la nation puisse désormais statuer sur le sort du roi. Et on soumet ce texte à une pétition publique. Le 17 juillet 91, la foule s'amasse sur le champ de Mars pour essayer de signer cette cette pétition. Bailly se dit que là, on est au bord d'un basculement général. Il interdit la manifestation, il va plus loin. Il proclame la loi martiale et sur le champ de Mars, il fait installer la troupe avec Lafayette qui marche en tête en grand uniforme. Il brandit le drapeau rouge de la loi martiale. « Ah bah, le drapeau rouge !» crie la foule. On est outré de ce qui se passe. C'est une espèce de coup d'État contre le peuple. C'est comme ça, en tout cas, que les Parisiens vivent. « Ah bah, les baïonnettes !» crient certains. « Et ça y est, voilà un coup de feu qui part !» Les gardes, se sentant attaqués, se mettent à répliquer, fusillade, et on va relever 12 morts parmi les manifestants. 3 aussi, d'ailleurs, parmi la garde, ce qu'on ne dit jamais. La foule va se disperser, mais cette fois, ça y est, c'est l'émeute générale. On parle de 1500 morts. Bon, bref, on dit que les corps ont été jetés à la Seine et Bailly, Lafayette sont les responsables tout désignés d'une foule qui est électrique. Lafayette va bientôt démissionner. En novembre 91, c'est Bailly qui démissionne. Le prétexte qu'il avance, c'est un épuisement physique, qui est tout à fait réel d'ailleurs. Bailly n'avait pas du tout l'étoffe pour assumer de telles responsabilités dans de telles circonstances. On le voit quitter l'hôtel de ville dans l'indifférence. Aucun témoignage de reconnaissance de ses collègues. Et en juin 92, il décide carrément de quitter la ville devenue trop dangereuse pour lui pour aller s'installer à Nantes. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, en avril 92, la France a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, n'est-ce pas ? Et devant l'avancée des troupes étrangères, l'Assemblée déclare la patrie en danger. Nouvelle insurrection. Le 10 août 92, c'est la Commune insurrectionnelle de Paris qui va essayer d'attenter à la personne de Louis XVI qui s'est enfui, vous savez, à l'Assemblée nationale. Cette fois, ça va être la chute de la monarchie. Septembre, nouvelle assemblée élue au suffrage universel qu'on appelle la Convention, qui abolit donc la monarchie et qui crée la première République française, une et indivisible. Et ça y est, on va bientôt... Louis XVI est captif à l'époque et on va bientôt le juger. Le procès du roi commence en décembre, enfin de l'ancien roi, puisqu'on est maintenant sous un régime républicain. Ce procès commence en décembre 92. Bailly a beau être à Nantes, son rôle de maire de Paris est maintenant réexaminé. On lui réclame d'abord un impôt sur un hôtel particulier qu'il occupait place Vendôme à l'époque où il était maire. On lui confisque un autre logement près du Louvre. Le gouvernement le place sous contrôle judiciaire. Il va devoir pointer toutes les semaines chez le procureur de la Loire inférieure, là-bas à Nantes. Et son ami, le marquis de Cazaux, qui lui rend visite, s'apprête à embarquer pour l'Angleterre. Il dit à Bailly, à sa femme, « Embarquez avec nous !» Le sage doit fuir une terre qui menace de dévorer ses enfants. À quoi Bailly répond, « Quoi qu'il puisse m'arriver de l'ingratitude de mes concitoyens, je ne fuirai point la France. » Les premières mesures de la première symphonie de Louis-Charles Raguet, le concert de la loge, était sous la direction de Julien Chauvin.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Si Bailly était allé se réfugier à Nantes pour trouver la paix, il a mal choisi. Vous savez ce qui se passe là-bas. Le gouvernement a fait arrêter beaucoup d'ecclésiastiques. Il y a 50 000 Vendéens de l'armée catholique et royale, parce qu'entre-temps, avec la conscription, il y a eu cette insurrection de la Vendée qui déferle sur Nantes et qui sont tenus en échec. En juillet 93, Bailly choisit de s'installer chez un ami à Melun. Donc il se rapproche de Paris, autant dire qu'il est en train de se jeter gentiment dans la gueule du loup. Un soir à dîner, derrière les fenêtres, on entend des hurlements « Il nous faut Bailly ! Nous voulons la tête de Bailly !» Et ces hommes vont obliger Bailly à se livrer à la mairie de Melun et le maire le garde sous surveillance dans sa propre maison. On attend les instructions de Paris, on est maintenant à la mi-septembre 93, autant dire qu'on est entré dans le régime de la terreur. La décision du comité de salut public tombe, il faut ramener Bailly à Paris. Ça sent pas bon cette histoire, on ne l'arrête pas, hein. Il pourrait encore s'échapper Bailly s'il voulait, mais il n'en fait rien. C'est un homme complètement épuisé, disons-le, physiquement et moralement, résigné. Il a bien l'intention d'affronter ses juges parce que c'est un homme intègre. Il se laisse conduire à Paris à la prison de la Force, dans le Marais. Il est bien traité, il est enfermé dans une grande pièce avec des meubles et de quoi écrire. Sa femme, le gouverneur de la prison, lui rendent visite tous les jours. Le 19 octobre, il n'en est pas moins mené au palais de justice où il va devoir témoigner dans le procès de Marie-Antoinette. Et oui, nous sommes arrivés en octobre 93. C'est le 9 octobre, hein, pas le 19. Connaissez-vous l'accusé? Oh oui, je connais madame, dit-il en saluant de la tête. N'avez-vous point reçu l'ordre d'Antoinette pour l'exécution du massacre des meilleurs patriotes sur le Champ de Mars? Non, non, non. Je n'ai été au Champ de Mars que d'après un arrêté du Conseil général de la commune. Bailly n'est pas encore jugé, mais il a compris exactement ce qui l'attend et ce qu'on va lui reprocher d'abord avant tout, c'est cette fusillade du Champ de Mars en juillet 91.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
10 novembre 93, ça fait presque un mois qu'on a guillotiné Marie-Antoinette, c'est son tour de comparaître. 5 juges sont là, avec leur grand chapeau à plumes noires, et 15 jurés. Le substitut Nolin reproche à Bailly d'avoir agi en tyran dans les conseils, d'avoir participé à la fuite du roi, provoqué la fusillade du Champ de Mars en proclamant la loi martiale pour aller jouir du plaisir barbare de faire égorger ses frères. Vous voyez comme ça va bien se passer, ce procès-là. Bien sûr que Bailly essaie de se défendre. Il explique que l'insurrection en question était animée par des agents étrangers et que lui-même n'aura agi somme toute que sur instruction des députés. Son avocat cite l'ordre du président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée vous ordonne d'employer tous les moyens que la Constitution vous a remis pour les réprimer. Il souligne que Bailly ne dirigeait pas lui-même les forces armées, hein. La garde nationale a tiré sans son ordre. Bref. Les témoins qui défilent sont tous à charge. Les jurés, à l'unanimité, reconnaissent Bailly coupable d'avoir, je cite, excité la guerre civile, armé les citoyens les uns contre les autres, porté atteinte à la liberté du peuple, été auteur ou complice de ce complot et de son exécution. Le tribunal le condamne évidemment à la peine de mort. Je meurs pour la séance du jeu de paume et non pour l'échauffourée du Champ de Mars, dit Bailly. Jusqu'au bout, il aura cru avoir été en quelque sorte l'incarnation même de cette idée d'une monarchie constitutionnelle qui, dans les soubresauts d'une révolution qui emportait tout, n'a jamais pu s'imposer vraiment.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre Bailly, maire de Paris et grand astronome. Et voici Christian Morin, bonjour. Christian.
Il aurait peut-être pu le rester. Hein,
maire de Paris?
Oui.
Ben, il n'aurait pas fallu qu'on lui coupe la tête, hein, pour ça.
Mais voilà, c'est ça. C'est quand même très gênant pour la
passage
de la direction de l'hôtel de ville. Bien, cet après-midi, on vous retrouve à 14h, bien sûr. Et puis, demain matin, avec grand bonheur, et à 8h05, aux côtés de David Abiker. C'était Monsieur Franck Ferrand.
Merci, Monsieur Christian Morin.
Le maire de l'histoire.